Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Les personnes qui arrivent d'Afrique, les personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
C'est marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans À vous les Burgiens, nous allons parler de la réforme des retraites. Le candidat Macron avait promis un régime de retraite universel pour remplacer les 42 régimes existants. Il voulait aussi établir un système par points où 1 euro cotisé donne les mêmes droits à tous. Et il compte bien appliquer ces mesures. Mercredi 11 décembre, le Premier ministre Édouard Philippe doit annoncer le contenu détaillé de la réforme pensée par Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites. Le projet de loi sur la réforme devait être voté d'ici l'été 2020 au Parlement. Jeudi 5 décembre, plus de 800 000 personnes ont participé à la manifestation contre cette réforme des retraites en France. Reportage à Bourg, où ils étaient plus de 4 000 pour une mobilisation massive. Dans le studio, Stéphane G, secrétaire de la CGT Cheminots de Bourg. Il va nous parler de cette mobilisation contre le projet du gouvernement et de son avenir. Ensuite, deux membres du syndicat Sud Éducation de l'Ain nous parleront de leurs conditions de travail et de leur position face à la réforme. Et pour terminer, Annie Jolivet, économiste au Centre d'études de l'emploi et du travail, le CEET, nous partagera son analyse de la stratégie du gouvernement sur les retraites.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Jeudi 5 décembre, près de 5000 personnes ont défilé dans l'Ain contre la réforme des retraites. À Bourg-en-Bresse, au départ du champ de foire, ils étaient plus de 4000. Le cortège était très divers, des enseignants, des pompiers, des jeunes et des retraités, mais aussi quelques gilets jaunes. Nous les avons rencontrés.
Sur le chemin entre le champ de foire et la préfecture de Bourg-en-Bresse, la CGT donne le pas en scandant des slogans. Une manifestation dans le calme, beaucoup de professions ont marché ensemble, pompiers, intermittents du spectacle, cheminots. Les fonctionnaires de l'éducation nationale étaient aussi particulièrement représentés, comme Candice qui n'est pas allée travailler aujourd'hui.
On manifeste jamais, nous on fait jamais grève dans notre école et là l'école est fermée. Professeur des écoles, on perd entre 500 et 700 euros par mois de retraite. Donc voilà, tout simplement. On commence aujourd'hui et on continuera.
La profession a aussi le soutien de ses retraités du secteur. Michel, ancien professeur.
J'ai souvenir de 95 où l'on a réussi à retarder la réforme des retraites de pas mal d'années. Je continue de penser que s'il y a beaucoup de monde, l'épreuve de force sera en notre faveur et on diminuera également la pression qui s'exerce actuellement sur les salariés.
Est-ce que vous, en tant que retraité aujourd'hui, vous vivez bien ?
Nous vivons correctement. J'espère que ça continuera et que les jeunes pourront vivre aussi bien que nous. Je continue de penser que les plus riches ont à donner aux plus pauvres pour que les moins privilégiés puissent justement acquérir un niveau moyen convenable.
Dans les professions à risque, l'inquiétude est forte. Lizard est pompier dans l'Ain.
Aujourd'hui, on a des collègues qui partent à 60 ans. Donc là, j'ai de plus en plus repoussé. On se retrouve avec des anciens dans les camions, alors qu'à 55 ans, les gens partaient et on pouvait recruter des jeunes. Nous, on veut dire stop, voilà. Et donc aujourd'hui, dans une façon un peu polie, on vient manifester, pour l'instant. Un jour, peut-être, on fera la grève générale et il n'y aura plus de pompiers. Moi, je suis pour l'ancien régime. Pourquoi ? Parce que nous, les fonctionnaires, on nous calcule sur les 6 derniers mois. En sachant qu'au départ, on est un peu plus que le SMIC. Fin de carrière, quand on va arriver à 62 ans, c'est là où on va avoir le plus haut de notre salaire. Donc toucher 75% de nos plus hauts salaires, c'est plus avantageux pour nous. Actuellement, avec le système des points, je crois que nos collègues ont calculé qu'on a une perte de pouvoir d'achat de 30%. Quand on voit que des gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite ?
Un groupe de gilets jaunes était aussi dans les manifestants. Simone est caissière dans un supermarché.
Quand je vois mes collègues déjà qui travaillent 2-3 ans de plus pour toucher 300 euros de plus de salaire, alors qu'on a des métiers pénibles, on porte quand même en moyenne une dizaine de tonnes par jour. Je me dis quel avenir j'aurai moi dans ce groupe-là. Est-ce que moi, à 60 ans, j'aurai encore l'âge de porter tout ce qu'on me demande de porter? Et je pense que j'y serai plus. Et donc, du coup, ma retraite, elle sera encore diminuée de par ce fait. Le plus, nous, on est des femmes, on a des enfants. On sait déjà que le fait d'avoir des enfants dans le calcul de nos retraites nous impacte. Demain, ça nous impactera encore plus. On fait quoi? On arrête de faire des enfants? Comment on fait? Voilà, à un moment donné, il faudra qu'on nous donne une solution.
Et pour les générations à venir, on manifeste aujourd'hui pour le futur. Lucille, 24 ans.
Moi, je suis surtout venue parce que j'ai très peur pour le régime des retraites, parce que je suis une future intermittente. Et je trouve que c'est un statut formidable et qu'il faut absolument préserver. Et j'espère qu'il existera toujours le jour où je serai artiste. Parce que sans ça, en fait, je peux pas le devenir. Il y a un nombre incalculable de trucs qui nous arrivent sur la tronche. Tant sur l'avenir écologique du monde, tant sur notre modèle social en France. Et c'est important qu'on reste solidaire dans tous les aspects de tout ça, que le collectif fonctionne. Et c'est pas gagné, donc il faut s'y mettre maintenant.
Une nouvelle manifestation a lieu mardi 10 décembre à 14h30 au départ du champ de foire de Bourg-en-Bresse.
Radio B. Radio B.
Nous sommes maintenant avec Stéphane G. Bonjour.
Ouais, bonjour à tous.
Vous êtes secrétaire à la CGT Cheminots, vous travaillez au pôle aiguillage à Bourg. Alors, vous êtes satisfait de la mobilisation qui a eu lieu le 5 décembre à Bourg?
Ah oui, la manifestation, j'en ai fait quelques-unes et je pense que c'était la plus importante que j'avais pu faire. On était, je pense, entre 6, 7 000, peut-être 8 000. Donc c'était une très belle manifestation avec beaucoup de métiers différents représentés, c'était très bien.
Donc ce mouvement de grève a été lancé par la CGT. Qu'est-ce que vous critiquez dans cette réforme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, nous à la CGT, on n'est pas forcément pour le statu quo. Nous, à la CGT, on milite en faveur d'une réforme des retraites, mais une réforme des retraites qui améliorait le système actuel, c'est-à-dire qui assurait des meilleures pensions pour toutes et pour tous.
Et ce mouvement de grève, donc, pour les cheminots, en quoi ça vous impacte, en fait, cette réforme?
Alors, pour la réforme des cheminots, si vous voulez, je peux vous... Parce que c'est un peu un mythe, le statut des cheminots, je peux vous dire un peu ce que sont les droits spécifiques des cheminots à la retraite, ça permettra de mieux comprendre. Donc nous, les cheminots, notre âge d'ouverture des droits à la retraite, il est à 57 ans. Mais pour partir à 57 ans avec sans décote, il faut avoir cotisé 172 trimestres. Donc en fait, moi, pour mon cas personnel par exemple, pour partir à la retraite, je dois partir à 62 ans pour ne pas avoir de décote. Ensuite, il y a une bonification pour la conduite, pour les agents de conduite. Le taux de remplacement est de 75%. Le calcul de la pension est fait à partir des 6 derniers mois. Il faut un minimum de pension de 25 ans de service. Et pour les conditions d'attribution de la pension de réversion, c'est sans condition d'âge ou de ressources. Et paiement de la pension au mois à échoir.
Donc vous, en tant que personne qui travaille au pôle aiguillage...
Au poste d'aiguillage.
Au poste d'aiguillage.
Au poste de, exactement même.
Qu'est-ce que vous faites et en quoi votre tâche, elle est difficile et vous n'avez pas envie d'aller à plus de 60 ans pour la faire?
Alors, moi je travaille en 3-8, 4h midi, midi 20h, 20h 4h et samedi dimanche. Bon, je ne travaille pas 7 jours sur 7, mais je travaille par exemple au dernier, j'ai travaillé 3 dimanches sur, au mois de novembre. Voilà, donc je travaille en horaire décalé avec des prises de service à 4h, donc je me lève à 2h30. Donc le travail de nuit, les études ont prouvé que le travail de nuit, les gens qui travaillent de nuit vivaient 7 ans de moins que ceux qui ne le faisaient pas. Voilà.
Et donc dans les coulisses du mouvement à la CGT Cheminots à Bourg,
ouais.
Vos collègues, qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'ils sont prêts à aller longtemps, à être longtemps en grève?
Alors la mobilisation chez les cheminots de Bourg, elle est forte. Pour la suite contre la réforme des retraites, mais également évidemment par rapport à nos conditions de travail et toutes les réorganisations qu'on subit, et notamment une forte inquiétude chez les cheminots pour leur emploi. Donc la mobilisation est très très forte chez les cheminots de Bourg.
Vous savez à peu près combien ça représente de personnes mobilisées?
Alors jeudi 5, on était 90% de grévistes. Et donc là, nous, c'est notre cinquième jour de grève. Donc au bout du cinquième jour de grève, là, pour l'instant, je perds mes repos. C'est-à-dire mes repos me sont décomptés comme un jour de grève. Mais la mobilisation réduit un petit peu parce que les gens essaient de sauver leur repos. Donc pour sauver leur repos, ils se remettent en travail et ils repartent en grève derrière. La mobilisation a baissé un tout petit peu, mais elle est encore très très forte. Bah, c'est l'une des mobilisations les plus importantes qu'on ait vues depuis que je suis au chemin de fer.
Donc là, ça fait déjà 5 jours pour vous.
5 jours, oui.
Est-ce que vous pensez que ça va continuer encore? Combien de temps, vous savez?
Alors ça, c'est pas moi qui décide. C'est, bah, comme on dit souvent, c'est la base qui va décider. Mais c'est surtout le gouvernement, suivant ce qu'il va proposer. C'est lui qui influe sur l'attitude des cheminots et des gens dans la rue.
Donc votre stratégie actuellement, c'est quoi pour essayer de faire plier le gouvernement?
Eh ben, nous, on mise sur le rapport de force. C'est le nombre qui fera les choses. On était plus d'un million dans la France dans la rue. Il faut quand même que le gouvernement, qui a été élu par les Français, il est là pour nous représenter, il prenne en compte ce que les gens qui ont voté pour lui ou pas, ou qui ont voté, disent. C'est pas parce qu'on a été élu qu'on peut faire ce qu'on veut. Les gens ont le droit à la parole et expriment, 1 million de Français qui expriment que c'est une mauvaise réforme, le gouvernement doit l'écouter.
Donc là, ce lundi, donc il y a des représentants de la CGT qui sont allés rencontrer Jean-Paul Delevoye,
ouais.
Celui qui fait la réforme. Donc est-ce que ça veut dire que la CGT est quand même ouverte au dialogue avec le gouvernement ?
On est ouvert, on est toujours ouvert au dialogue. Après, c'est ce qu'on nous propose en face qui pose problème ou pas. Mais on est toujours ouvert au dialogue, bien sûr.
Donc la CGT ne veut pas forcément que le gouvernement annule cette réforme. Il y a des choses qu'on peut conserver dans cette réforme ?
Alors dans la réforme, il n'y a rien qui est bon. Il n'y a rien qui est bon, on partira plus tard avec moins d'argent. Donc dans cette réforme, il n'y a rien qui est bon. Nous, on a des propositions à faire, il suffit de nous écouter. On a des propositions à faire. Si vous voulez, je peux vous les donner ou pas, c'est comme
oui,
vous voulez.
On est intéressé.
Allez. Donc je vais lire un petit peu mon papier, parce qu'il y en a beaucoup. Donc nous, ça doit évoluer. Donc l'organisation syndicale, la CGT, elle revendique de pouvoir partir à la retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans. D'avoir un revenu de remplacement à hauteur de 75% du revenu net d'activité et en prenant en compte les 10 meilleures années. Et ce, avec au minimum une pension équivalente au SMIC. Ensuite, la comptabilisation des années d'études chez les jeunes pour le calcul de la retraite doit être prise en compte. La pénibilité des métiers aussi, en harmonisant les dispositifs de départ anticipés. Et enfin, l'indexation des pensions sur les salaires et non sur les prix. Il y a plein d'autres mesures, mais je ne suis pas assez un technicien des économiste pour vous répondre.
Donc mardi 10 décembre, il y aura une nouvelle journée de mobilisation.
Ouais.
Vous savez quelle forme ça va prendre à Bourg ?
Alors mobilisation 14h30 au champ de foire. Il faut venir, il y a du monde. Ça se passe toujours très très bien à Bourg-en-Bresse. C'est joyeux généralement, sympathique. Et puis ça se passe très bien, il faut venir nous voir. Et puis discuter, on aura des gilets rouges. Si vous voulez discuter avec nous sur le parcours, eh ben, je suis ouvert à tout le monde.
Et donc selon le résultat, entre guillemets, la mobilisation de mardi, comment va prendre la suite du mouvement ? S'il y a moins de 1000 personnes, vous faites quelque chose, comment vous gérez ça ?
Alors généralement, nous, ce qui compte, c'est ce que pense la base, c'est le plus grand nombre. Donc suivant la mobilisation, suivant les annonces qui sont faites, suivant ce que pensent les gens, on avisera à ce moment-là. On part pas dans le... On n'anticipe rien, c'est ce qui se passe qui font les choses.
Donc est-ce que vous avez d'autres idées, à part cette mobilisation du mardi 10 décembre, après, pour la suite du mouvement, vous continuez la grève ?
Suivant ce qui se dit et ce qui se passe, oui, je pense que la grève va continuer, oui.
Vous avez quand même un espoir dans les réponses qui vont être apportées mercredi par le gouvernement ?
J'aimerais tellement, je suis quelqu'un qui croit en l'avenir et qui, je pense que le gouvernement peut, doit annoncer des choses intéressantes.
Donc, pour les usagers de train,
oui.
Donc, ça embête un peu les gens quand même.
Oui, je comprends
votre
bien.
Grève.
Ouais.
À quoi on peut s'attendre en décembre ? Est-ce qu'il faut privilégier la voiture ? Comment ça va se passer ?
Il faut privilégier le vélo, c'est mieux. effectivement, nous, on est cheminots. Donc, les cheminots, quand on fait grève, le premier truc qu'on fait, eh ben, on ne travaille pas. Du coup, il n'y a pas de train qui circule. Malheureusement, ça empêche les gens, ça gêne les gens, forcément. Ben, c'est notre outil de travail. On ne bloque pas les raffineries, on ne bloque pas les stations d'essence, on ne bloque pas les boulangeries, on ne bloque pas les trucs. Juste, on ne va pas travailler et c'est notre outil de travail. Donc, il faut s'attendre, je pense, encore à des grosses difficultés, surtout sur Bourg, à des grosses difficultés dans les jours à venir.
Le reproche qu'on peut vous faire, c'est de bloquer les honnêtes gens, entre guillemets, qui vont
ouais.
travailler. Vous répondez quoi à ça?
Je suis honnête aussi, hein, je ne suis pas un voyou. Bah, écoutez, oui, nous, notre outil de travail, c'est le chemin de fer. Quand on ne travaille pas, ça se voit. Donc, c'est qu'on a une utilité quand même, un service public utile. Quand on n'est pas là, c'est le bazar. Donc il faut essayer de conserver au maximum un service public qui fonctionne. Donc dès qu'on n'est pas là, ça se voit. C'est bien donc qu'on sert à quelque chose.
Donc ce que fait le gouvernement sur vos conditions de travail, est-ce que ça se détériore, vous sentez, ces dernières années?
Ouais, par exemple, je peux prendre un peu le cas sur Bourg, hein, qui concerne un peu les gens. Donc nous, on a pour le mois de décembre deux gros soucis sur la gare de Bourg. On a les guichets, les restructurations des guichets et les autorisations de départ. Donc sur la restructuration des guichets, vu l'affluence au guichet et les différentes restructurations depuis ces dernières années, on a demandé à avoir un guichet d'ouvert de plus du lundi au vendredi l'après-midi et un guichet d'ouvert de plus le samedi. C'est une demande des cheminots au guichet, mais des usagers aussi. Ça a été refusé par la direction. Ils considèrent que les gens doivent prendre leurs billets sur Internet ou aux machines. Alors la dématérialisation des billets, c'est bien, mais sauf que les gens, dès qu'ils ont un souci, ils viennent au guichet. Donc les guichets, ils font plus de... ils font moins de ventes, mais beaucoup plus d'accueil de gens avec leurs soucis, avec leurs billets. Ça, c'est le premier départ qu'on a sur, premier problème qu'on a sur les en gare de Bourg-en-Bresse. Le deuxième départ, c'est qu'à partir du deuxième problème, pardon, c'est qu'à partir du 15 décembre, en gare de Bourg-en-Bresse, les autorisations de départ vont changer, ce qui va induire, je vais faire des mots simples, celui qu'on appelait le chef de gare avec la casquette, le sifflet. Et on appelait ça une palette qui faisait le départ, va disparaître sur les quais. Donc les usagers du train de gare de Bourg-en-Bresse, ils ne verront plus personne sur le quai, il n'y aura plus personne pour les accueillir, et toutes les tâches de sécurité ont été ramenées sur la seule personne qui obligatoirement doit rester, c'est-à-dire le conducteur du train, qui en plus de gérer son train, gérer la sécurité, devra gérer les gens sur les quais et dans son train.
Donc je rappelle que demain, donc mardi 10, il y a une nouvelle mobilisation. Merci Stéphane G, secrétaire CGT Cheminot de Bourg-en-Bresse. Et en plus de la CGT dans l'intersyndicale qui appelle à une nouvelle manifestation, on retrouve aussi Force Ouvrière, FSU, mais aussi le syndicat Sud Solidaire. Et nous retrouvons maintenant deux membres de Sud Éducation dans l'Ain. Bonjour Andy.
Bonjour.
Bonjour Valentin.
Bonjour.
Vous êtes mandaté par Sud Éducation dans l'Ain et vous êtes professeur des écoles. Alors expliquez-nous un peu quelle est la position de votre syndicat face à cette réforme des retraites.
Alors à Sud Éducation, nous on est sur une position assez radicale. On militera et on milite et on militera jusqu'au retrait total du projet de réforme de retraite qui a été proposé par le gouvernement. On critique cette réforme par capitalisation du gouvernement qu'ils essayent de nous faire avaler en nous vendant et en nous mentant à longueur de temps. Hein. Nous, enseignants, on a encore entendu Blanquer qui nous a promis une revalorisation salariale dont je pense qu'on verra jamais la couleur. Donc ça, c'est du côté des enseignants. Et nous, à Solidaire, on porte un projet de retraite qui est basé sur la solidarité intergénérationnelle, ce qui va disparaître avec la retraite à points. On porte quelque chose qui est basé aussi sur la justice sociale, la justice fiscale et sur une autre répartition des richesses, hein, parce qu'on voit que il y a des centaines de milliards d'euros qui sont distribués au CAC 40, aux entreprises. Ils s'en mettent plein les poches et en attendant, c'est les gens qui travaillent qui vont devoir payer à leur retraite. On trouve ça inadmissible en tout cas. Enfin voilà, je pense que de l'argent, il y en a, ça c'est clair. Il faut savoir aller le trouver, il faut savoir où il est. Nous, on sait où il est, il n'y a pas de problème, on peut aller le chercher. Donc voilà quoi, on porte ce projet-là.
Et vous, en tant que professeur des écoles, qu'est-ce que ça va changer concrètement?
Alors nous, concrètement, ce qui va changer déjà, c'est l'âge de départ à la retraite. Hein. Donc là, on nous parle de partir à 67 ans la retraite. Moi, concrètement, à 67 ans, je suis pas sûr, hein, je travaille en maternelle, je suis pas sûr d'être capable de travailler jusqu'à 67 ans avec des enfants de 4, 5 ans. Enfin, là, en tout cas, en l'état, je me vois pas du tout le faire. Je pense qu'à 67 ans, je me verrais pas du tout en train de le faire, quoi. Ça, c'est clair. Et puis, bien sûr, partir à la retraite avec quand même vachement moins d'argent. Et selon les simulations qui ont été proposées, il n'y a pas que Sud Éducation qui a proposé des simulations, je pense que les autres syndicats l'ont fait, on est de l'ordre d'une perte de pension de entre 600 et 800 euros, enfin entre 500 et 800 euros, pardon. C'est quand même considérable compte tenu de la pension qui est accordée maintenant. Enfin voilà quoi, c'est toutes ces choses-là qui font que ouais, voir 67 ans partir à la retraite avec pas beaucoup d'argent, ça fait peur quoi.
D'autant plus que c'est un système, quand il va être mis en place, qui va créer une forte inégalité entre les hommes et les femmes, qui, ben, du fait de leur arrêt, dû à des grossesses par exemple, auront plein de temps de leur vie qui ne seront plus pris en compte pour leur retraite. Donc on se bat aussi contre ça. Et je pense que même de manière plus générale, en débordant un peu du cadre de l'éducation, on se bat aussi pour notamment nos camarades cheminots, notamment ceux qui, dans l'Ain, baignent dans l'amiante depuis des vingtaines d'années. Et on ne pense pas que ce soit forcément un beau cadeau de leur offrir une retraite plus tard, à quelques mois de leur fin de vie, au final.
Et en faisant cette manifestation, cette grève, vous attendez quoi du gouvernement ?
Ben nous, on attend à ce qu'il plie. Hein. Vraiment, hein, franchement, là on a fait un peu le point de nos forces et tout entre nous. Là, les gens, ils sont prêts à la bagarre, quoi. Moi, je suis assez jeune, j'ai une trentaine d'années, j'ai jamais vu ça à Bourg-en-Bresse. J'ai toujours milité à Bourg-en-Bresse. Ça fait quelques années que je suis syndiqué, que je suis militant. J'ai jamais vu ça. Je pense que vraiment il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui a été lancé, et l'idée c'est vraiment de poursuivre les semaines à venir, les jours à venir, dès la semaine prochaine, d'organiser les choses pour donner la possibilité aux gens de lutter sur d'autres formes que donc des manifs, des grèves, etc. Mais voilà, en tout cas là les gens ils sont prêts à la bagarre, quoi. On le sent, et nous ce qu'on veut c'est que le gouvernement il plie, quoi. Ça fait un an que les gilets jaunes sont dans la rue pour les faire plier, ça avance pas. Là, il faut que les salariés se mettent en grève, il faut que le pays soit bloqué pour que ça avance, quoi.
Donc là, aujourd'hui, vous ne travaillez pas ?
Non, on est en grève, oui.
Donc c'est votre façon d'essayer de faire plier le gouvernement aussi ?
Ouais, c'est ça, parce que je pense que nous, salariés ou fonctionnaires, ce qui nous reste essentiellement, c'est la grève. Vraiment, la grève, c'est on abandonne notre outil de travail, hein, on refuse d'être payé, hein, je le rappelle, hein, pendant une grève on n'est pas payé, hein, je le rappelle maintes et maintes fois, tous les jours. On abandonne notre outil de travail et c'est la seule chose qui nous reste vraiment comme levée d'action. Et après, la grève, c'est pas une fin en soi, enfin nous c'est pas comme ça qu'on le voit, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment libérer du temps aux militants, militantes et adhérents des syndicats ou personnels non syndiqués pour justement rejoindre des actions, faire des manifs, faire des opérations de blocage, de péage ouvert, des choses comme ça, pour que en fait les choses montent et que voilà, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se crée, quoi. Mais à la base, bien sûr, c'est la grève.
Et pour la suite du mouvement, pour faire plier le gouvernement, comme vous souhaitez le faire, oui. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines dans l'Ain ?
Des AG qui se montent localement, qui vont déboucher sur des actions locales, avec aussi des grands temps forts départementaux, comme on a pu connaître vendredi, comme on va connaître mardi prochain. Il y a aussi une jonction, convergence des luttes avec les Gilets jaunes qui est nouvelle et qui nous apporte beaucoup d'espoir aussi, et qui, je pense, pour les Gilets jaunes, leur font plaisir, parce que ça fait depuis un an qu'ils se sentent seuls, qu'ils luttent seuls, et maintenant qu'ils acceptent que des syndicalistes soient présents parmi eux ouvertement, on voit ça comme une très bonne nouvelle. Et du coup, après, quant à dire... Quant à vous dire combien de temps durera la lutte, c'est impossible. On espère aussi que le gouvernement va se décider d'ouvrir un peu les oreilles, d'écouter le peuple et puis de stopper son projet déplorable.
C'était Andy et Valentin du syndicat Sud Éducation dans l'Ain.
Radio B.
Et prenons un peu de recul sur cette réforme maintenant avec l'économiste Annie Jolivet qui travaille au Centre d'études de l'emploi et du travail à Paris. Bonjour Annie Jolivet.
Bonjour.
Vous êtes économiste au Centre d'études de l'emploi et du travail. Alors pourquoi le gouvernement veut faire cette réforme des retraites maintenant ?
L'argument que présente le gouvernement, c'est de passer à un régime plus juste. C'est l'argument essentiel qu'il met en avant. L'idée étant que la juxtaposition des 42 régimes existants créerait des distorsions. Alors c'est en partie vrai, hein, créerait des distorsions avec des droits qui ne seraient pas calculés de la même façon selon l'appartenance à un régime ou à un autre. C'est à la fois un problème pour les gens qui sont les moins avantagés. Par exemple, les retraités du régime agricole sont réputés pour avoir des pensions très faibles. C'est aussi compréhensible quand on envisage la mobilité professionnelle, c'est-à-dire passer d'un emploi à un autre qui n'est pas dans le même régime de retraite. Donc c'est ça que le gouvernement met en avant. Et puis c'est rajouté, plutôt il y a un an et demi, L'idée que les évolutions de la natalité, de la mortalité feraient qu'on ne serait pas dans une position si avantageuse et qu'il faudrait gérer tout de suite un déséquilibre qui pourrait survenir dans le futur.
Et donc le gouvernement veut mettre en place un système par points. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et nous définir ses avantages et ses inconvénients ?
Alors un système par points, c'est en ce qu'a en tête le gouvernement, c'est en fait quelque chose qui fonctionne à peu près comme ça fonctionne pour l'AVIRC ARCO pour l'instant pour les salariés du privé. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la rémunération qu'on perçoit, on acquiert un certain nombre de points. Donc là, ce que le gouvernement a en tête, c'est un point par 10 euros de rémunération. Vos points sont portés au compte en fonction de ce qu'on appelle un coefficient de conversion. Donc voilà, vous avez entre guillemets un capital de points. Et ce capital de points, à la toute fin, au moment où vous demandez votre liquidation de retraite, le nombre de points est converti en fonction de la valeur du point au moment où vous prenez votre retraite. C'est d'ailleurs un des points qui est le plus difficile à concevoir. C'est-à-dire en fait, vos points, le nombre de points est connu, mais la valeur des points n'est connue qu'au dernier moment. Les avantages, c'est que quel que soit votre niveau de rémunération, même pour les plus bas niveaux de rémunération, c'est-à-dire si vous travaillez que quelques heures par-ci, par-là, vous avez des points qui sont comptabilisés. Aujourd'hui, dans le système actuel, vous êtes sur un système d'annuité et il faut avoir au moins 150 heures SMIC par trimestre pour avoir un trimestre. Donc l'idée, c'est qu'on irait un peu plus bas. Mais en contrepartie, vous connaissez vos nombres de points, mais vous ne connaissez pas leur valeur. C'est la différence avec le système actuel. Aujourd'hui, vous avez un système dit de prestation définie. C'est-à-dire, on sait, vous ne connaissez pas le montant de votre prestation, mais vous savez avec certitude qu'elle sera fondée sur une espèce de moyenne actualisée de vos rémunérations. Dans le futur, vous connaîtrez vos points, mais vous ne connaîtrez pas la valeur de la pension qui vous sera accordée au moment de la liquidation, puisque le point est susceptible, pas forcément de baisse, mais en tout cas d'une progression qui ne sera pas forcément garantie. Donc vous n'avez aucune garantie sur le montant de votre pension à la retraite.
Donc ce système, le gouvernement le veut universel. Quel serait son impact sur l'économie, les économies des retraités ?
En fait, aujourd'hui, vous avez des régimes qui fonctionnent séparément. Donc pour chaque régime, vous avez un certain nombre de cotisants et vous avez un certain nombre de retraités avec des rapports entre les deux qui ne sont pas forcément très équilibrés. Par exemple, le régime des avocats est un régime autonome qui a beaucoup de jeunes avocats, entre guillemets, et relativement peu de retraités. À un moment donné, les choses s'inverseront, mais pour l'instant, c'est comme ça que le régime fonctionne. À l'inverse, vous avez un régime souvent pointé du doigt qui est celui de la SNCF. Vous avez beaucoup de retraités pour relativement peu de cotisants, une partie de ce déséquilibre étant liée au fait que les gouvernements successifs ont imposé la baisse des effectifs de la SNCF, donc forcément la baisse du nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités. Quand on fait un régime universel, on va en fait tout mettre dans un pot commun, mais on ne fait pas que mettre tout dans un pot commun, on va modifier aussi la façon dont sont calculées les pensions pour toutes les personnes qui font partie de ce régime dit universel. Donc ça veut dire que vous allez avoir en fait, aujourd'hui on a des transferts qui sont visibles entre les régimes. Hein. On sait qu'il y a des subventions qui sont versées de régime à régime pour essayer d'équilibrer un peu les choses par principe de solidarité entre les régimes. En fait tout ça se passera exactement de la même façon ou presque dans un régime universel. Simplement ça ne sera pas visible avec des subventions. Et l'idée du gouvernement, c'est d'uniformiser totalement le mode de calcul des pensions. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si je reprends l'exemple des personnes qui ont des petits emplois très courts, très fragmentés, donc ceux-là récupéreraient entre guillemets des droits avec des points. Et pour les gens qui sont, par exemple, prenons la SNCF, les gens qui feraient basculer dans ce nouveau système, pour les fonctionnaires c'est la même chose, on perdrait le calcul des droits à pension sur les 6 derniers mois du salaire perçu. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va faire une sorte de redistribution, on va diminuer les droits à pension pour les gens qui sont les plus avantagés, et puis améliorer pour les gens qui sont les moins avantagés. Ça, c'est ce que le gouvernement met en avant. La réalité de tout ça, c'est que pour tout le monde, les droits seront calculés pour l'ensemble de la carrière, donc on n'éliminera plus les années qui sont moins bien rémunérées, les années pendant lesquelles vous avez pu avoir un salaire plus faible, les années où vous avez eu du temps partiel par exemple. Donc toutes ces années-là, qui sont aujourd'hui évacuées dans le régime du secteur privé, ces années-là seront intégralement prises en compte. Donc, du coup, c'est plus flou de savoir qui est vraiment avantagé ou pas. Il y a des régimes qui sont nettement désavantagés, ceux qui ont peu de primes, ceux qui ont des niveaux de rémunération qui sont pas forcément progressé très vite ou qui sont inférieurs à d'autres métiers dans le secteur privé. Donc les enseignants sont particulièrement concernés. Des gens qui partent tôt, comme les pompiers, les policiers, ça c'est lié aux conditions d'exercice de leur profession. Des gens qui sont aujourd'hui... les hospitaliers sont concernés à la fois par la question d'âge et par la question de la rémunération. Donc vous avez en fait beaucoup de professions dans le secteur public qui vont être désavantagées du point de vue avec les nouvelles règles de ce régime. Je pense que l'interrogation majeure pour toutes les personnes qui sont concernées, que ce soit en positif, a priori en positif ou a priori en négatif avec cette réforme, c'est d'arriver à estimer à quel point le niveau de pension auquel ils ont droit aujourd'hui va être touché à la baisse, à la hausse peut-être pour certains, mais pour beaucoup probablement à la baisse, à quel point ça va être touché. Est-ce qu'on va perdre 10%, 20%, 30%? Le gouvernement est rentré dans cette réforme en assurant que personne n'y perdrait rien, ce qui semble extrêmement difficile à tenir.
Donc cette réforme des retraites, ça fait des années qu'on en entend parler, que les gouvernements essayent de changer ce système parce que la population française est plutôt vieillissante. Mais est-ce qu'on est obligé de réformer notre système de retraite?
On n'est pas obligé de basculer sur un régime universel tel qu'il est présenté. Le gouvernement n'a présenté que cette option. Il faut quand même rappeler que depuis 2003, depuis 1993, on a enchaîné plusieurs réformes. Bon, les premières étaient surtout, enfin, celle de 93 était uniquement pour les salariés du privé. Mais à partir de 2003, on a en fait fait converger déjà les régimes des fonctionnaires, par exemple. Il reste quelques différences, mais ces différences n'entraînent pas un manque de financement du système de retraite tel qu'il est aujourd'hui. En fait, si on reprend les prévisions, enfin les derniers ajustements que le corps a examiné à la demande du gouvernement, là, le rapport qui est sorti à la toute fin du mois de novembre, on voit bien qu'une partie du déficit qui est mis en avant par le gouvernement est largement due à, d'une part, aux exonérations de cotisations sociales qu'il a accordées l'année dernière, et d'autre part, à la prévision d'une baisse du nombre de fonctionnaires. Donc effectivement, ça baisse le nombre de cotisants pour la fonction publique. Donc globalement, le système n'était pas tant que ça en déséquilibre, il était plutôt à l'équilibre. On a remboursé la dette. D'ici un ou deux ans, la dette sera totalement remboursée. Donc on n'est pas sur un système qui est en difficulté financière aujourd'hui. Le choix de faire une réforme telle que la présente le gouvernement est un choix à la fois technique et politique, mais qui n'est pas un choix rendu nécessaire par des impératifs financiers.
Plus précisément, qu'est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous pensez de cette réforme?
Je pense que c'est une réforme qu'on aurait pu concevoir différemment, c'est-à-dire on aurait pu envisager un ou deux systèmes différents. On pourrait très bien concevoir, par exemple, d'avoir un socle commun de retraite, par exemple sur la base d'annuité ou de points, et ensuite d'avoir un deuxième étage qui soit propre au type de profession et d'emploi qu'on occupe. Et l'autre possibilité aurait été d'avoir peut-être, mettons, trois ou quatre régimes différents suivant le type de profession et de statut que vous avez. On pourrait très bien avoir un système global pour la fonction publique, un système global pour les professions libérales, les artisans commerçants, un système pour les militaires qui sont très, très particuliers, enfin, toutes les professions un peu spécifiques. Il n'y a rien qui nécessite spécialement d'être sur le type de régime que le gouvernement propose. Simplement, c'est la seule proposition qui est sur la table pour l'instant. Donc, en fait, le choix pour chacune des personnes en France, je ne sais même pas si le choix peut se résumer entre le système actuel et le système futur, parce que le gouvernement met une pression extrême pour qu'on ne réfléchisse qu'au système qu'il envisage.
C'était Annie Jolivet, économiste au Centre d'études de l'emploi et du travail à Paris. Mercredi 11 décembre, le Premier ministre Édouard Philippe présente l'intégralité du projet de la réforme des retraites. Et c'est la fin de cette émission d'Avou les Burgiens. Merci de nous avoir écoutés. À 20h, retrouvez Captain en direct de son émission musicale Ping Pong. Bonne soirée sur Radio B.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.